Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous également Valdo Simo Yamba Yamba depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc d'ici là, Amdine Sy, rentré à Dakar, va nous rejoindre, ainsi que Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. La CAF a procédé au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors, le géant égyptien Al Ahly s'est offert un rendez-vous contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Amine, ça promet.
Ça promet comme toutes les rencontres de ce tirage au sort, puisqu'on ne retrouve que des tenants du titre ou d'ex-champions d'Afrique. Évidemment, l'équipe la plus titrée du continent, c'est l'Ali d'Égypte. Elle n'a pas eu un morceau facile dans la personne de cette formation sud-africaine, les Mamelodi Sundowns. Les Mamelodi Sundowns qui ont quand même réussi à engranger 14 points possibles sur 18 lors de cette phase de groupe de la Ligue des Champions, montrant un visage beaucoup plus solide. C'est une formation habituée à jouer les derniers rôles. La preuve, la saison dernière, ils étaient en demi-finale. L'Ali est une équipe qui est en train de se retransformer, de se reconstituer après avoir disputé deux finales consécutives malheureusement perdues pour le club égyptien qui reste en quête d'un 9e titre. Il va falloir maintenant voir comment ils vont parvenir à jouer leur vatou au Caire au match aller avant d'aller négocier la rencontre retour à Pretoria. A priori, léger avantage au Mamelodi Sundowns, mais on ne sait jamais dans ce genre de compétition, l'expérience et la grinta des Égyptiennes pourraient faire la différence avec évidemment comme objectif retrouver le lustre africain et retrouver ces titres qui filent Ali depuis quelques saisons.
Le Raja Casablanca fera face au tout-puissant Mazembe. Alors, Valdo, on le sait, Mazembe a réussi sa phase de poule parfaitement et il va falloir pour les Marocains d'être costauds devant les Corbeaux.
Tout à fait, Mazembe a réussi ça. De manière, Mazembe qui est sur une très très bonne dynamique, notamment au niveau du championnat de la République démocratique du Congo, où il trône pratiquement en tête. Et puis les Corbeaux sont plus que jamais déterminés à aller chercher un nouveau titre de retrouvailles face à Raja. On le sait bien, il y a une histoire particulière entre les deux formations quand on sait que l'ancien attaquant du tout-puissant guerrier Mazembe, Ben Malango, a rejoint la formation du Raja de Casablanca. Donc ça s'annonce plutôt entre Ben Malango et son ancien club, le tout-puissant guerrier Mazembe d'ailleurs. L'attaquant de Mazembe craint par rapport à sa présence ici en République démocratique du Congo, quand on se rappelle des conditions avec lesquelles il a quitté le tout-puissant Gabriel Mazembe, il veut avoir des garanties pour se déplacer à Lubumbashi et jouer bien sûr à ces matchs ô combien importants. Donc c'est ça au moins le rendez-vous qui est attendu. Donc il y a des formations, c'est quand même du lourd s'il faut qu'on le dise comme ça. C'est un ensemble de 8 titres qui est mis en jeu. 3 pour les Raja et 5 pour les tout puissants Gabriel Mazembe. 2 victoires chacun, ce qui veut dire que ça sera peut-être le demi le quart de finale pour essayer un peu de les dissuader à moi, de les partager. Mais du moins, le tout puissant Gabriel Mazembe qui est sur une très bonne dynamique, grâce à tous les favoris. Il y a même Mazembe qui peut ne pas être en forme dans une compétition, mais ça reste quand même chez les tout puissants. Chez son nom, il a une réputation à faire valoir sur les continents. Par contre, Raja est également sur une très très bonne dynamique. Cette dynamique qui veut que cette équipe-là joue très bien dans son championnat, il est pratiquement quatrième et il cherche à se frayer le chemin. Et s'ils arrivent à éliminer les tout-puissants gagnants à Mazembe, ça sera une très très bonne chose pour cette formation qui va chercher à faire une très très bonne prestation. Bon, on verra l'aller chez la Raja et puis le match retour, ça sera à Lubumbashi. Donc Mazembe qui est resté invaincu. Envoyé chez lui à domicile, et on verra ce qu'il en sera, bien sûr, de cette double confrontation entre les Raja et l'équipe puissante de Gabriel Mazembe.
Alors, Amine, je reviens à vous. Valdo le disait si bien, le match retour, c'est à Lubumbashi, et donc dans l'entrain du tout-puissant Mazembe. Peut-être qu'il faudra pour le Raja de bien négocier la rencontre aller à domicile avant de se déplacer dans ce joyau de Mazembe.
Ceci est une évidence, mais cette année, un des paradoxes du Raja, c'est une équipe qui joue beaucoup mieux en déplacement qu'à domicile. Il est vrai que l'effectif est assez léger sur le plan quantitatif. Les blessures sont en train de peser très lourd. La fatigue aussi, puisqu'il n'y a pas beaucoup de turnover dans cet effectif du Raja qui joue sur de très nombreux fronts. Le championnat, mais également la Coupe arabe où ils sont en demi-finale. Ils jouent la semaine prochaine contre l'Ismaïl d'Égypte et cette Champions League africaine. Et paradoxalement, sur les points qu'ils ont pris, ils ont pris beaucoup plus de points en déplacement qu'à domicile. Ça en dit long sur la solidité défensive cette saison de l'équipe du Raja, notamment depuis quelques matchs ou depuis quelques semaines. Et puis sur le fait que, offensivement, à l'exception de Ben Malongo, il n'y a pas d'avant-centre de métier, il n'y a pas de joueur qui puisse peser sur les défenses. Et on verra dans quelle mesure Malongo pourra voyager à Lubumbashi. Comme le disait Simoyan Bayamba, et il se pourrait que les dirigeants du Raja préfèrent le garder au chaud à Casablanca. Donc l'obligation, c'est de faire la différence devant son public. Un public très chaud, un public qui joue souvent son rôle de 12e homme et qui fait peur à l'adversaire. Maintenant, il faut juste rappeler que l'équipe du TP Mazembe va se préparer tranquillement au Maroc pendant 2 semaines. Elle verra son championnat s'arrêter. Est-ce que c'est un avantage pour l'équipe de Lubumbashi dans la mesure où ils perdront un peu la dynamique de la compétition, ou bien ils gagneront en fraîcheur, que le Raja, lui, continuera son parcours du combattant sur plusieurs fronts avec un effectif de plus en plus réduit. Et on verra si ce n'est pas un commando du Raja ou c'est le métier et surtout la meilleure condition physique de cette équipe de Lubumbashi, du TP Mazembe, qui fera la différence.
Alors, Jules, bonsoir. Vous qui nous rejoignez depuis Libreville au Gabon.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Alors, la double championne en titre, hein, je vais parler de l'expérience sportive de Tunis, retrouve le Zamalek de Patrice Carteron. Ces deux clubs s'affronteront déjà ce vendredi 14 février lors de la Supercoupe d'Afrique au Qatar. Expérience de Tunis, Zamalek, c'est un gros match.
Oui, bien sûr. Confrontation entre équipe tunisienne et équipe égyptienne ont toujours été des matchs très engagés et très difficiles. Mais curieusement, la balance penche le plus souvent au profit des équipes tunisiennes qui sont beaucoup plus malignes, qui sont plus tactiques, qui sont plus rusées. Bon, donc, on s'attend à avoir des matchs très engagés, mais tout se jouera sur des détails. Et je crois qu'à ce niveau-là, les équipes tunisiennes ont souvent un petit avantage sur les équipes égyptiennes et je ne dis pas qu'il y a un favori, mais s'il fallait désigner un favori, je désignerais la Renaissance.
L'autre club marocain, le Wydad Athletic Club, affronte l'Étoile Sportive du Sahel, une autre équipe tunisienne qui s'est séparée de son entraîneur Juan Carlos Garrido. Alors Amine, peut-on parler d'une affiche équilibrée entre ces deux formations-là?
C'est du 50-50 quasiment, même si l'Étoile Sportive du Sahel a déjà pris l'ascendant sur le Wydad Casablanca sur le plan historique. Jamais le Wydad n'a réussi à l'éliminer, même en 2 manches. Et on verra comment cette équipe tunisienne, qui est bien mal en point dans son championnat, qui vient de se séparer de son coach, pourra retrouver ce lustre africain qu'elle affectionne, puisqu'elle a fini première de son groupe. Le Wydad, lui, vient d'être sacré ce soir champion d'automne. Le Wydad doit récupérer quelques éléments importants qui manquent dans son effectif depuis quelques semaines. Et puis surtout, il a le désavantage de jouer le match aller à domicile. L'équipe tunisienne, elle a du métier. Et comme disait Jules Valentin Gouin, en général, les équipes tunisiennes possèdent cette science tactique et cette capacité à s'adapter à l'adversaire. C'est ce qu'a prouvé cette équipe de l'Étoile du Sahel, qui a fini quand même première de son groupe. Le groupe qui a mis le plus de temps à se décanter, devant l'Ali et l'Hilal du Soudan. A priori, c'est du 50-50, mais on ne sait jamais. Tout pourrait se décider au match aller. Et si les Tunisiens parviennent à marquer à Casablanca, la mission sera plus que compliquée pour le Wydad.
Les rencontres se disputeront en aller les 28 et 29 février, puis en retour les 6 et 7 mars. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. Tirage au sort également effectué pour les quarts de finale de la Coupe CAF à suivre le duel ouest-africain entre Enyimba du Nigeria et le Oroya de la Guinée. Alors Jules, je me tourne vers vous. Enyimba du Nigeria, Oroya de la Guinée, encore un duel africain pour le Oroya. On va se rappeler qu'il avait eu du mal à se défaire du Djoliba du Mali lors de la phase de groupe.
Oui, et puis un Oroya qui monte en puissance d'année en année et qui, ma foi, a montré que ce n'est pas une seule saison qui qui lui permet de faire un coup d'éclat. Et donc, je pense que c'est une équipe qui viendra avec beaucoup d'ambition, même si Enyimba est une équipe qui sort d'un championnat nigérian souvent très disputé. Donc, Oroya, avec sa meilleure organisation peut-être ces dernières années, et Enyimba qui a en quelque sorte juste son palmarès qui est relativement un peu éloigné. Et donc, la balance penche pour moi un peu au profit de l'Oroya.
Alors, Jules, je reste avec vous. On a le pyramide d'un FC d'Égypte qui sera face à Zanaco de la Zambie. Zanaco, on va dire, c'est peut-être la surprise de ces quarts de finale dominés par les clubs du Nord comme en Ligue des Champions.
Oui, bien sûr. Les Angolais, ils ont l'habitude de nous faire de bonnes surprises. Et puis, c'est une équipe de Zanaco qui a pu essayer de faire un peu comme le tout-puissant, peut-être Mazembe, et à un niveau peut-être inférieur, mais qui est rentré dans la même dynamique de recrutement des joueurs un peu dans la sous-région et même un peu plus loin, et des joueurs qui lui apportent un plus. Et donc, on a vu comment cette équipe qui a commencé par douter un peu au départ a fini très fort. Et donc, il est possible qu'elle soit libérée et qu'elle puisse tirer les marrons du feu.
Le sort oppose aussi Al Masry d'Égypte à la Renaissance sportive de Berkane et donc club marocain. Finaliste, on va le rappeler, la saison dernière. Alors, Amine, c'est encore un duel maghrébin, on va dire, avec tout ce qui va avec.
Ou plutôt un duel nord-africain. Deux équipes qui se sont retrouvées en phase de groupe il y a deux saisons avec deux victoires partagées, une à Berkane 1-0 et l'autre en faveur du club égyptien. Club égyptien qui reste sur une bonne dynamique en championnat, 4 victoires consécutives. Berkane est deuxième au Maroc. Elle avait réussi à se qualifier au Bénin sur un score assez large, 5-1. Et l'objectif de ces joueurs, c'est de réussir à vaincre le signe indien après avoir échoué en finale et au tir au but contre les Amalek d'Égypte. Ils reviennent dans un pays qu'ils connaissent très bien. Ils ont le capital expérience, la profondeur de bande effectif et surtout cette grinta qui est une des marques caractéristiques de la Renaissance de Berkane. Mais attention, l'équipe égyptienne est dans une bonne dynamique et comme la plupart des formations de ce pays, elles sont cette compétitivité, notamment dans les compétitions africaines. Avantage pour Berkane qui jouera le match retour à domicile devant un public et dans une ambiance qui est souvent décisive dans ces matchs de compétition de Coupe de la CAF.
Et enfin, dans ces quarts de finale de la Coupe, CAF Al Nasr de la Libye affrontera Hassania Agadi. Alors, Valdo, c'est un duel nord-africain, comme le disait Amine tout à l'heure, entre Libyens et Marocains. Peut-être un petit avantage pour les Marocains tout de même.
Ah, mais logique avantage pour les Marocains quand on sait qu'Al Nasr a obtenu sa qualification qui est grâce au goal average particulier à un but de confrontation face au Djibouti du Mali, sinon il déco en termes de points 8 au total. C'est là que les choses vont se jouer. Par contre, les Marocains ont réussi à terminer en tête avec 11 points. Avantage aux Marocains et Al Nasr. Attention, un match de football n'est jamais gagné d'avance quand on sait qu'il se retrouve dans cette étape de compétition et est capable de mieux faire. Et ils ont déjà réussi à se qualifier, ce qui est une très très bonne chose avec notamment deux victoires, deux défaites contre deux matchs, avec deux matchs nuls. Donc, ils vont chercher à hausser le niveau, tout en sachant qu'ils ne partent pas favoris. Mais attention, ils auront un quart à jouer face au favori qui est en face. Et puis, ils verront quoi faire pour essayer un peu d'être en forme, de titiller un peu l'adversaire en double confrontation. Mais la plus grande difficulté serait qu'il faudrait mieux jouer la rencontre. Allez, quand on sait que les matchs retour vont se jouer en déplacement, et le football marocain est en train de prendre l'ascendant, c'est en train de monter. Cette saison, on sent que les Marocains sont pratiquement sur tous les tableaux. Ils sont là, ils sont bel et bien présents. Donc, ça s'annonce déjà perdu, mais ça risque d'être une motivation pour les clubs libyens.
Alors, Amine, Al Nasr est sorti de justesse des phases de poule. Valdo le rappelait tout à l'heure, grâce à son goal average favorable par rapport au Djoliba du Mali. Est-ce que du côté de Hassania Agadi, on s'est dit tout de suite comme pas favori?
On ne doit pas se dire cela dans la mesure où l'équipe n'est pas très performante en championnat. Elle montre deux visages différents. En Coupe d'Afrique, ça marche beaucoup mieux, mais en championnat, l'équipe a du mal à décoller, surtout que cette saison, elle a connu deux changements d'entraîneur. Une fronde du public par rapport à la nomination du deuxième entraîneur qu'on ne voyait pas capable ou que les supporters dont les supporters ne voulaient pas. Et puis aujourd'hui, c'est une équipe qui était en plein marasme. Donc on verra dans quelle mesure elle arrivera à montrer son meilleur visage en compétition africaine, d'autant plus qu'elle reste sur une défaite à domicile face à Paradou, 3-0, lors de la dernière journée. Il est vrai que l'enjeu n'était pas du tout... il n'y avait pas d'enjeu du tout dans cette confrontation. Puis il faut juste rappeler que l'équipe de Nassar Libyen, c'est un peu l'inconnu de cette compétition. Le football libyen vit un paradoxe, c'est que les championnats ne se déroulent pas, étant donné la situation politique dans le pays. Ils ne jouent jamais à domicile, puisqu'ils doivent disputer leur match soit en Tunisie, soit en Égypte. Pour ce qui est du club de Nassar Benghazi, comme le club se trouve à l'est de la Libye, il est plus facile de se déplacer en Égypte, donc le match sera délocalisé là-bas. Et puis... peut-être que c'est un avantage pour le Hassani d'Agadir de ne pas avoir à subir la pression d'un match en déplacement. Ils joueront donc dans un terrain plus ou moins neutre avant de recevoir à domicile. Mais attention, les équipes libyennes sont très accrocheuses, elles sont bien organisées défensivement et puis elles n'ont surtout rien à perdre. C'est le cas du Nassar de Benghazi lors de cette confrontation.
Victor Miguel de Freitas Gomes sera le patron de la Supercoupe d'Afrique. Le Sud-Africain a été désigné par la CAF pour officier le match entre l'Espérance de Tunis et le Zamalek SC d'Égypte. Gomes sera assisté de son compatriote Zakele Toussi-Siouéla et du Lesothien Soura Patzouane. À la VAR, on retrouve le trio Genisi Kwadzoué de la Zambie, Mustapha Gorbel de l'Algérie et Gerson Emiliano Dos Santos de l'Angola. Amine, je vous reprends, Mouane Chabani de l'Espérance de Tunis et Patrice Carteron du Zamalek s'étaient déjà opposés l'année dernière. Le Français était sorti vainqueur avec le Raja Casablanca. Cette finale, c'est aussi un remake entre ces deux coachs.
Remake entre les deux coachs avec un avantage ou un ascendant psychologique pour Patrice Carteron qu'il avait vaincu avec le Raja de Casablanca en adoptant une stratégie de jeu qui avait permis au club marocain de l'emporter sur le score de 2-1. Il revient quasiment un an plus tard sur ce même terrain ou dans cette même ville, dans cette même configuration qui fait que le match se déroule sur terrain neutre. L'Espérance de Tunis est habituée à ce genre de joute. Le Zamalek va devoir aussi faire ce calcul. Il affrontera l'Espérance trois fois quasiment en moins de 20 jours. Sur deux matchs, les Tunisiens sont favoris, mais sur une rencontre, il y a une possibilité de voir les Égyptiens l'emporter. Les Égyptiens qui se sont fait désirer ou se sont fait attendre, puisque jusqu'à il y a quelques 48 heures, et on n'était pas sûr de voir le Zamalek disputer cette rencontre en raison du contexte politique et surtout des relations compliquées entre le Qatar où se déroulera le match et le pays des pharaons. Mais visiblement, le club aura reçu toutes les assurances possibles de la part de la CAF, notamment en termes de sécurité et de quiétude pour pouvoir venir disputer ce match. Ils ont fait monter les enchères, ils ont politisé un peu l'enjeu et cela pourrait peut-être être une arme à double tranchant, favorable pour l'équipe égyptienne si elle arrive à l'emporter, défavorable si en abusant de ce contexte politique un peu délicat, il venait à perdre cette rencontre face à l'équipe de l'Espérance de Tunis.
Espérance de Tunis, Zamalek SC, c'est un choc entre deux clubs du Nord, on le rappelle, et on le sait, c'est souvent tendu. Alors Jules, est-ce que le fait que ça se joue à Doha, au Qatar, donc hors du continent, pourrait aider à contenir les débordements?
Oui, bien sûr. D'abord, les joueurs sur le terrain et se sentent un peu les ambassadeurs du football africain du continent sur un autre continent et donc ils aimeraient laisser une très bonne image et c'est sûr que tout le contexte donne l'occasion de valoriser encore un peu plus la victoire du futur vainqueur. Et donc, je pense que nous aurons un match certes engagé et un match sûrement agréable, mais un peu moins tendu mentalement.
Alors, Valdo, c'est la deuxième édition consécutive de la Supercoupe CAF qui se tient hors du continent. Pensez-vous que ce soit un début de tradition pour cette Supercoupe CAF-là?
Je vois bien que cette coupe-là en déplacement, ça me permet un peu de vivre directement le football au niveau, un peu comme au niveau européen. On a vu il y a peu Barcelone jouer la Supercoupe d'Espagne, amener également sa Supercoupe en dehors de son pays. C'est le cas. Si ça va seulement servir à ce que le football se joue dans les normes, que le football ne nous offre pas le spectacle de ce qu'a été la dernière finale de la Ligue des Champions où parfois il faut tâtonner avec la VAR, t'as donné à gauche et à droite. Il faudra vraiment que ce soit digne du football comme on les aime. Hein. Et puis, en attendant, voir ce qu'il en sera du spectacle entre les deux formations. On essaie, si l'équipe qui se joue en supercoupe, les deux équipes vont s'essayer en prévision, bien sûr, de leur double confrontation en quart de finale de la Ligue des Champions. Ce qui veut dire que ça sera un match vraiment très engagé. Et puis, Zamalek, qui peine en Ligue des Champions, va chercher à imprimer ses marques. Et je pense bien que c'est une supercoupe qui va nous donner de la matière pour passer qui en fera de leur confrontation au niveau des quarts de finale de la Ligue des Champions.
Et donc, cette supercoupe, je le rappelle, aura lieu vendredi 14 février à 16h, temps universel, au stade Al Gharafa à Doha, au Qatar. Le football en salle cette fois-ci. Le Maroc s'est adjugé vendredi dernier le trophée de la CAN Futsal 2020, un deuxième sacre continental consécutif après celui donc de 2016 et devant le même adversaire. Alors Amine Alayoun, on va dire, les Lions de l'Atlas hein, n'ont pas fait de cadeau à l'Égypte, giflé 5-0.
Et c'était un peu le jour et la nuit entre les deux finales. Il y a 4 ans, elle était beaucoup plus équilibrée. Elle s'était décantée à 2 minutes de la fin en faveur du Maroc. La surprise générale. Cette fois-ci, il n'y a pas eu photo. Les Lions de l'Atlas ont rugi à 5 reprises. Ils ont surtout fait le spectacle, assuré ce spectacle du début jusqu'à la fin de la compétition avec une équipe renouvelée, un pressing haut qui a pris à la gorge tous les adversaires, en particulier une équipe d'Égypte qui était surprise par cette stratégie de jeu. L'Égypte qui ne s'est pas du tout renouvelée malgré, après son quart de finale de Coupe du Monde il y a 4 ans en Colombie. Et visiblement, avec un effectif vieillissant, avec des joueurs qui avaient trop de certitudes et qui ont été pris à la gorge, l'équipe d'Égypte a perdu pied dans ce match-là face à une équipe du Maroc qui fera partie des 3 représentants du continent africain pour la prochaine Coupe du Monde en compagnie du pays des Pharaons et surtout de la surprenante équipe d'Angola. Voilà les 3 représentants du ticket africain pour la prochaine Coupe du Monde. Elle démarrera le 12 septembre prochain en Lituanie. Concernant l'organisation presque parfaite, quelques petits défauts, mais visiblement, on a quand même eu droit à une belle compétition avec beaucoup de buts du spectacle et surtout beaucoup de fair play entre les différentes sélections présentes sur le parquet à l'AIEU.
Merci Amine Birouk, vous qui avez suivi hein, ces matchs et vous les avez commentés d'ailleurs pour le compte bien sûr de la CAF. Vous l'avez aussi suivi la semaine dernière. Le président de la Fédération Ivoirienne de Football renonce hein, à se représenter. Augustin Sidi Diallo a annoncé qu'il ne briguera pas un mandat supplémentaire même si les textes l'y autorisent, ce sont ses mots. Il est en piste hein, depuis... à la tête de la fédération, depuis 2011. Et son deuxième mandat en cours prend fin le 19 février. Alors, Jules, Sidi Diallo a eu pas mal de difficultés avec les responsables du foot ivoirien, dont certains clubs hein, avaient réclamé sa démission bien avant cela. C'est peut-être la bonne formule hein, de se retirer par la porte.
Oui, bien sûr. Il a voulu sortir par la grande porte et prendre réellement la décision de partir alors que les choses... semble, disons que tourner peut-être même à son avantage parce que c'est souvent difficile de déboulonner un ancien président. Et donc, je crois que ça donne une leçon à ceux qui s'éternisent à ces postes-là et c'est une bonne chose pour l'Afrique.
Retraité des pelouses depuis fin 2018, Didier Drogba, ancien capitaine de la sélection ivoirienne et ancien joueur vedette de l'Olympique de Marseille et de Chelsea, a été le premier à annoncer sa candidature à la fin de l'année dernière. Alors, Valdo, Sidi Diallo se retire à la fin de son mandat, c'est peut-être plus de chance pour Didier Drogba.
Oui, il reste le seul candidat. Ce qui veut dire que l'élection ne sera qu'une formalité pour le porter à la tête de cette fédération, ce qui est une très bonne chose. Je suis plutôt tenté de saluer à l'initiative du président sortant, hein, qui se dit que c'est rarissime en Afrique de voir quelqu'un laisser pratiquement dire que je ne suis pas candidat à ma propre succession. C'est des choses qui arrivent rarement et saluer son initiative, mais maintenant, prétend. Les performances sont attendues quand on sait que Didier Drogba, c'est un nom du football africain qui prend les règnes du football dans son pays. On attendra beaucoup de lui. C'est plutôt, on va quitter la théorie, il faut maintenant être dirigeant et dans la peau du dirigeant, on verra ce qu'il va, bien sûr, apporter. Lui qui n'est pas encore élu, il faudra qu'il soit élu en attendant les élections. Donc, c'est vraiment conseil pour lui, après sa carrière de footballeur, devenir dirigeant, c'est une très, très bonne chose et ça va certainement servir à beaucoup. Après, et bien sûr, le Libéria George Weah qui est devenu président de la République, et aujourd'hui on sait voir qu'un ancien footballeur devient également président de la Fédération, à l'instar du Zambien Kalou Chaboya. Donc on verra bien ce que Drogba va apporter à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football.
La prochaine élection donc du président de la Fédération Ivoirienne de Football peut se tenir entre le 20 février 2020 et le 30 juin 2021 selon les textes de la Fédération. Sporama qui va s'achever ici pour ce soir. Je rappelle qu'on est en direct avec Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc, Jules Valentin Ngoué à Libreville au Gabon, Valdo Simo Yamba Yamba depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. On va faire un clin d'œil à Élisée Nkpatine depuis Bohucon au Bénin. Élisée, vivement que tu retrouves ta santé et que tu nous reviennes bien sûr dans une meilleure forme. Yacouba Ouédraogo devant ce micro, à la réalisation Joselle Morissin, Nick Ivanov à la console. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de VOA Afrique. Tout de suite, une nouvelle édition du journal avec Abdourahmane Dia.
VOA Afrique.